Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir, Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah, je sais. Verre kaki.
Calmez-vous! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous,
non,
vous trouvez
oui.
ça normal?
C'est du verre bouteille!
Allez-vous cultiver scientifiquement?
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retraite, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie. Je suis journaliste indépendante en Bretagne et chaque mois sur Canal B, Radio Boa, Deezer et Apple Podcast, je vous parle d'écologie pendant une heure. Un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus, médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, eh bien on continue à en parler dans les médias indépendants et à l'antenne des radios associatives. Actualité, interview, reportage, mais aussi ressources, agenda et musique, c'est le programme de Vert Déter qui tire pour cette émission sur un vert gazon, car on va se pencher aujourd'hui sur les écoféminismes avec notamment un entretien long format de la philosophe Myriam Bahafou. Allez zou. Et commençons avec l'info repérée pour vous dans l'océan vert émeraude de l'information. Et difficile de passer à côté, la COP30, trois lettres pour conférence des parties sur le climat, a débuté lundi 10 novembre et se déroulera durant deux semaines en tout à Belém, une grande ville brésilienne proche de l'Amazonie. Les représentants de près de 160 pays y sont réunis pour négocier autour de l'enjeu climatique. Et le contexte, c'est le suivant, c'est qu'on est 10 ans après les accords de Paris et que l'objectif de rester sur les plus 1,5 degré, eh bien, il est quasiment enterré. En plus de ça, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. Alors qu'attendre de ces grands sommets sur le climat? C'est la question posée par Mathieu Magnaudet et le pôle écologie de Mediapart dans l'émission À l'air libre du 10 novembre. Autour de la table, vous entendrez trois chercheurs, philosophes, historiennes et anthropologistes, ainsi qu'un militant qui est engagé sur le territoire polynésien. Tout ça, c'est à voir en accès libre sur la chaîne YouTube de Mediapart. Vous écoutez Vert Déter sur Canal B, Radio Boa ou bien en podcast en ligne. Une émission dans laquelle on parle aujourd'hui d'écoféminisme au pluriel. Dans l'ouvrage Remember Fessenheim qui vient de paraître, le petit-fils de Françoise Daubonne, David Dufresne, qui est connu pour son travail journalistique sur les violences policières, eh bien David Dufresne mène l'enquête sur cette grand-mère qui fut la pionnière de l'écoféminisme. C'est elle qui la première employa ce mot et en dessina les contours, notamment dans son ouvrage phare, Le féminisme ou la mort, publié en 1974. On lit, page 41 du livre de David Dufresne, que, je cite, « l'ambiance féminine, on doit sans doute y entendre l'ambition féministe, est d'arracher à la société même la direction du véhicule en folie, non pour le conduire à sa place, mais pour sauter hors de la voiture. » Alors, j'ai pas encore fini le livre, mais je vous le recommande déjà pour redécouvrir ou découvrir, dans mon cas, le parcours de cette féministe radicale qui a été de tous les combats, défenseuse des droits LGBT, en lutte contre le nucléaire, contre la guerre d'Algérie, et jusqu'à mener un commando saucisson contre des anti-IVG, oui oui. Après ce court rappel, c'est le moment de l'entretien long format de cette émission, enregistré juste avant une rencontre qui a été imaginée par la librairie rennaise Planète IO. Vous me pardonnerez pour les quelques bruits de souffle que vous allez entendre durant l'enregistrement, j'avais oublié ma bonnette. Et c'est donc un micro tout nu que j'ai tendu à notre invité. Mais pour parler de désir, ça tombe plutôt bien. Myriam Bahafou, vous êtes chercheuse en philosophie féministe, militante écoféministe décoloniale et après des paillettes sur le compost, ça c'était en 2022, vous avez publié cette année Héros politiques, écoféminisme, désir et révolution, publié comme pour le premier aux éditions du Passager clandestin. Pour les auditeuristes qui ne vous connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait résumer un peu votre parcours à la fois personnel mais aussi académique qui vous a donc amené à vous diriger vers la philosophie que vous décrivez comme un sport de contact et puis aussi vous diriger vers ces sujet d'écoféminisme décolonial.
Bonjour, déjà merci de m'avoir au micro et à l'émission. Résumer tout un parcours en comme ça, 30 secondes, ça va être un petit peu sport justement, mais je vais me prêter à l'exercice. Je pense que mon travail académique, il est indissociable de mes engagements militants. mais tout en n'ayant jamais pris les espaces dans lesquels je militais comme des terrains. Donc moi, j'ai pas fait de recherche à partir des espaces dans lesquels j'ai milité. Grosso modo, des espaces qu'on dirait autonomes, anarchistes, de l'écologie politique radicale, des squats, des ZAD. Donc voilà, ça c'est un peu un des milieux dans lesquels j'évolue et qui a une grande influence dans ce que j'écris. Et ma recherche, elle a toujours été axée du côté de la philo, qui est pour moi presque l'espace de pensée critique le plus excitant à investir en ce moment, d'autant plus en tant que femme racisée, nord-africaine, issue d'un milieu précaire. Je pense que tout ça, d'amener ça dans les bancs de la philo et de montrer en fait qu'on peut faire une philosophie sociale, on peut faire une philosophie critique qui est stimulante, qui est excitante et qui a des racines en fait dans l'expérience du vécu, comme les féministes décoloniales l'ont toujours dit en fait. C'est ça qui a un petit peu dessiné les contours comme ça de mon parcours. Ça a quand même démarré à la base des bases par l'antispécisme. Donc ça, je trouve quand même intéressant toujours de le mentionner, c'est que c'est la condition animale et notre rapport aux animaux autres qu'humains qui a été vraiment le déclencheur pour moi d'une réflexion très poussée sur l'éthique, la morale, la valeur, et c'est des choses que ça, aujourd'hui j'enseigne en philosophie, mais qui ont été vraiment le noyau un petit peu de toute une réflexion que je mène depuis en fait maintenant 10 ans sur la race, l'animalité, l'espèce, et en fait comment à partir de là on peut tisser un environnement, un horizon de justice sociale qui soit désirable pour tous.
Alors dans Des paillettes sur le compost, votre premier ouvrage qui est sorti en 2022, vous montriez que c'est dans les replis de situations qu'on peut qualifier d'ordinaires, par exemple un rendez-vous chez l'esthéticienne ou encore un déjeuner en terrasse, que se déploie la puissance des écoféminismes, donc des écoféminismes au pluriel. Quelle en serait votre définition à vous des écoféminismes qui sont sans doute simplifiés, en tout cas dans les médias mainstream, puis dans l'esprit de pas mal de gens aussi peut-être. Moi j'avais noté exploration des liens entre violence sexiste, raciste et environnementale. Est-ce que c'est à peu près ça ?
C'est drôle, plus on me demande la définition des écoféminismes, moins j'ai l'impression que j'arrive en fait à en donner une réellement claire et qui puisse répondre à l'attente de la définition qui est en fait une réduction. Parce que toute définition est une réduction, ça veut dire que vous réduisez à la substance en fait un concept. Sauf que les écoféminismes, et ça c'est ce que je m'acharne un peu à dire dans mes bouquins, c'est que c'est pas des concepts, ni un concept, c'est des luttes. Et donc pour entrer dans les écoféminismes, il faut déjà être d'accord avec l'idée qu'on va être face à une multiplicité et face à une espèce d'arborescence qui ne convient pas à l'exercice même de la définition, qui justement voudrait tout réduire à un terme. Avant, j'avais coutume de dire les écoféminismes, c'est le constat selon lequel la situation écologique actuelle, donc la catastrophe écologique, le changement climatique, les extinctions de masse, l'extractivisme, le capitalisme néolibéral qui assassine, détruit le vivant, tout ça ne peut pas être compris sans comprendre le rôle du patriarcat et la distribution du genre dans le monde. Bon, bah une fois qu'on a dit ça, on n'a pas du tout mentionné la donnée de la race, ni celle de la classe. Donc en fait, c'est dur de pouvoir tout tenir ensemble. C'est ça l'exercice de l'intersectionnalité, en fait. De plus en plus, maintenant, je dis que les écoféminismes, c'est pratiquer une forme de politique qui valorise le renouvellement de la vie. Alors, c'est pareil, c'est hyper, hyper large et en même temps, peut-être, ça veut rien dire. Mais je crois que ça change, en fait, en fonction des moments de ma vie et de ce qui fait sens pour moi dans les écoféminismes. Mais en tout cas, l'idée principale pour moi, c'est que c'est quand même un mouvement de terrain, donc de pratique, donc de lutte, avant d'être des concepts et des théories. Et que si on veut en parler en termes de concepts et de théories, c'est une grille de lecture du monde qui fait de la modernité coloniale occidentale une des données principales à partir desquelles il faut comprendre la situation écologique aujourd'hui. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas simplement trier ses déchets, c'est pas simplement manger moins de viande, c'est un rapport au monde en fait, c'est une culture. Et que dans une culture où en fait c'est principalement la mort, la destruction, l'exploitation qui prédomine, eh ben il faut se poser la question de des origines en fait de cette culture. Et une des origines de cette culture, c'est le patriarcat, c'est-à-dire la prédominance de valeurs dites masculines qui n'ont pas vocation simplement à exploiter les femmes. Donc c'est pour ça que le féminisme n'est pas, en tout cas pour l'écoféminisme, ça n'est pas l'égalité homme-femme, c'est pas du tout ça à l'horizon, mais c'est plutôt l'abolition en fait d'un système genré qui distribue des valeurs différenciées de la vie et qui fait qu'on est dans un monde en ruine en fait aujourd'hui.
Alors le point de départ à l'écriture du nouvel essai là, dont on va parler, c'est en fait quand vous avez réalisé le peu de ressources en français sur le sujet de l'héros politique. Héros politique, à savoir, je cite, la poursuite éthique de ce qui nous maintient et augmente notre puissance d'être en vie. Manque de ressources en français, mais le livre s'ouvre aussi de l'autre côté de l'Atlantique ou aux États-Unis. Vous êtes un peu frustré ou déçu parce que vous voyez dans les rayons d'une librairie qui est pourtant assez engagée sur ces sujets-là. Et donc, on arrive à l'héros politique qui est en fait une considération beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer au départ, à savoir une considération sexuelle, génitale.
En fait, quand on considère l'écoféminisme ou les écoféministes, comme j'ai un peu essayé de les définir, c'est-à-dire comme une espèce de champ politique qui vise à maintenir et à redonner de la valeur et de l'amour, en fait, à ce qui est en vie, à la biodiversité au sens très très large. Moi, ce qui m'a un petit peu manqué et frustré, c'est en effet que la dimension désirante, en fait, de la lutte, du militantisme, de la politique, avait été un petit peu abandonnée, en fait, dans la réception française des écoféminismes au profit de quelque chose de très lisse, très presque théorique, très historique. Et que moi, disons que pour moi, on ne fait pas de la politique sans désirer, en fait, quelque chose. Pour le meilleur et pour le pire, par ailleurs. Hein, tout le monde désire ardemment, en fait, voir le monde changer, ou se transformer, ou le conserver. Mais en tout cas, tout élan politique vient d'un engagement viscéral, en fait. Et je crois que la démission ou la désertion, en fait, de cette dimension-là au profit d'une dimension beaucoup plus intellectuelle, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles les écoféminismes sont toujours un petit peu considérés comme quelque chose de suspect. Parce qu'il y a la question de la spiritualité, il y a la question du corps, il y a la question de la communion avec des êtres non humains, enfin, et tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus lisible en partant du désir. Et donc, quand je parle de désir, j'ai envie de lui accoler ou de le théoriser selon un terme qui serait beaucoup plus axé sur la façon dont on peut faire multiplier ce désir de sorte à accroître nos capacités de vivre ensemble, d'où le terme héros politique. Donc héros politique, il y a vraiment le côté héros, et pour moi héros n'est pas forcément ni génital, n'est pas forcément sexuel, n'est pas forcément même humain, mais c'est plutôt notre capacité ensemble à désirer un monde et à faire accroître les différentes potentialités de ce dernier, un monde dans les mondes, quoi, ou des mondes dans un monde, comme dirait Escobar, qui est un philosophe décolonial qui a vachement théorisé cette idée-là de pouvoir faire cohabiter la biodiversité dans le champ du politique, quoi. Donc héros politique pour montrer que 1, le désir est hyper important, 2, en fait il n'y a pas de politique sans désir, 3, et que dans les mouvements à gauche, on peut dire, la question de la désirabilité, la question de la jouissance, la question du plaisir, en fait c'est des espaces qui à mon sens ne sont pas assez investis, alors qu'ils l'ont été dans les années 70 par exemple, ou 60, ça a été un petit peu délaissé au profit d'une espèce d'ode à la sobriété volontaire ou à une forme un peu d'austérité écologique qui rimerait avec une pureté. Et ça, pour moi, ça se voit beaucoup dans les milieux militants. Et ça fait, par exemple, qu'il y a très peu d'inclusion dans ces milieux-là. Et en fait, ce que je dis, c'est que les personnes qui sont issues de milieux populaires ou de milieux dans lesquels la question du plaisir n'était pas du tout un acquis, mais au contraire une lutte, eh ben, c'est certain qu'elles, elles vont pas désirer un espace politique où, en fait, le plaisir n'est pas pensé, par exemple. Du coup, voilà, j'essaie de bâtir une théorie politique autour de qu'est-ce que ça veut dire que désirer en écologiste, en féministe aujourd'hui, et qu'est-ce que ça dit de notre lien au monde, en fait. Parce qu'on est des entités, à mon sens, plus désirantes que même humaines, que même hommes-femmes, que même, et qu'en fait, toutes ces rigidifications, que le fascisme internationalisé actuellement sait très bien nourrir, toutes ces rigidifications, elles ont pour moi pour but presque de faire dévier la question du désir, qui du coup, sous le capitalisme, en fait, est uniquement délimité autour du triptyque manque, possession, accumulation. Et sous le patriarcat, le désir principalement, c'est la culture du viol. Donc en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres formes de désir qui sont possibles et que c'est pas en démissionnant du désir qu'on va réussir à faire de la meilleure politique. C'est en désirant encore plus et en se rappelant, en fait, qu'on... On est excité, en fait, pour le monde. Et on est excité quand on se rassemble, quand on fait des AG, quand... Enfin, pas forcément les AG. Mais on devrait, en fait, on devrait. Et du coup, de brancher, en fait, nos espaces communautaires, associatifs, de démocratie directe, démocratie radicale, anarchiste, autonome, écologiste, radicaux, etc., etc., sur le canal du désir... Pour moi, ça amène quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus vibrant, et ça peut prendre plein de formes par ailleurs. Enfin, dans le livre, je parle absolument pas uniquement du désir sexuel, parce qu'au contraire, c'est presque une des formes les plus insuffisantes, en fait, du désir aujourd'hui.
Alors l'essai, il compte 280 pages, il est construit en trois parties. Jouissance partout, liberté nulle part, psychopolitique du désir conquête, c'est le titre de la première, qui explique comment des machines comme le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat ont en fait en commun de réfréner les autres formes de désir, ce dont on parlait à l'instant, les autres formes de désir, en tout cas que le désir conquête.
Oui, et ce désir conquête, en fait, il peut prendre plein de formes, mais c'est celui qu'on voit principalement sous l'ère néolibérale, extractiviste, trumpiste... où on ne peut pas penser le désir en dehors de la possession. Et en fait, c'est même ça qui excite. C'est pas tant la personne en face qui est une porte vers une forme de rencontre qui va me faire grandir et me transformer, c'est plutôt la manière dont je peux posséder et me réaffirmer à travers l'autre. Et en fait, ces logiques-là, qui sont des logiques fascisantes, elles sont pas du tout exclusives aux sphères de pouvoir élevées. En fait, elles arrivent aussi dans nos milieux, elles arrivent aussi dans nos manières de faire société ensemble. Et donc, ce qui m'intéresse justement, c'est d'essayer de voir comment on peut faire dévier ce désir conquête, bien que pour moi, on ne puisse jamais en sortir. En fait, on fait partie de ces machines-là, donc on n'est pas des êtres passifs à qui on lave le cerveau. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'on participe activement, en fait, même à notre propre exploitation. Ça a été plutôt prouvé. Et donc, ma question, c'est d'essayer de voir comment on peut s'interroger de manière critique sur qu'est-ce qui nous excite, en fait, aujourd'hui. Et encore une fois, au sens large, parce qu'en fait, si on fait de la politique par vengeance, par haine, par peur, par frustration aussi, aujourd'hui, beaucoup, l'extrême droite, elle s'appuie en fait sur des profonds affects de ressentiment et de frustration pour des personnes qui ont été définies comme des losers un peu de la politique, comme des gens qui sont au bas du bas, des invisibles en fait. Et donc comment, au lieu justement d'intellectualiser cette réalité-là et de dire en fait, vous devriez sortir de votre obscurantisme, essayer de lire un peu des livres et de vous cultiver, comment en fait on peut prendre au sérieux en fait ces affects-là et voir quelles impasses ils comportent, parce qu'il y a des impasses qui sont absolument certaines, mais comment surtout on peut essayer d'amener de la jouissance ailleurs en fait, une espèce de promesse de jouissance. Et ça, j'oppose même pas un autre concept, donc moi j'ai que le concept du désir conquête et après je dis faut faire sauter ça quoi, ou faut bricoler, mais je pense absolument pas qu'il y aurait un autre concept très binaire qui serait le miroir en fait du désir conquête et dont on pourrait opposer la force, et du coup on dirait il y a le désir conquête d'un côté, il y a le désir X de l'autre. Je crois pas du tout que ça fonctionne comme ça, que c'est beaucoup plus diffus en fait, et que c'est toujours des occasions et des pratiques et des comportements davantage que des blocs monolithiques.
Mais en tout cas, dans des pratiques, vous donnez des exemples, dans les sphères amoureuses, des loisirs, de la liberté, un peu partout dans nos vies en fait.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on sent ces potentialités d'autres désirs au quotidien, on les sent. On les sent dans des espaces qui sont absolument pas visibles par la politique mainstream, qui ne sont pas rémunérés. Donc là, tous les métiers du care, tous les métiers qui visent en fait à une forme de transformation collective, tous les métiers associatifs, en fait, c'est ceux qui sont le moins visibles, rémunérés et qui ont le moins de crédit en fait politique. Et pourtant, c'est ceux à partir desquels les espaces de désir sont les plus puissants en fait, parce qu'on a des capacités de transformation et donc de joie collective qui sont quasi révolutionnaire, moi je trouve. Mais à côté de ça, en fait, c'est dans des formes de désir conquête qui sont extrêmement pauvres, extrêmement ramassées, extrêmement limitées. Donc pour prendre l'exemple du désir sexuel, par exemple, l'image la plus répandue du désir sexuel, c'est deux personnes hétéros dans une chambre à coucher pour un rapport moyen de 7 minutes qui se sanctionne par un orgasme masculin, comme on sait. Et c'est fini, en fait, basé sur un imaginaire mainstream capitaliste pornographique qui va être à peu près le même, en fait, à peu près toute la vie. Et dans le capitalisme, c'est pareil, en fait. On est formatés tous pour aspirer à avoir une maison, une hypothèque, un chien, un mari, t'as fait quoi, chérie, ce soir, etc. Et qu'en fait, il y a une uniformisation. Voilà, je pense que c'est ça, la tragédie, en fait, écologique. C'est qu'il y a une uniformisation du désir. C'est-à-dire que le désir qui est censé être une forme d'appel à la diversité, comme je l'ai déjà dit plein de fois, là, j'ai beaucoup ce mot à la bouche, en fait, on le réduit au même, c'est-à-dire à la répétition de l'un. Et ça, c'est une catastrophe qui n'est pas seulement humaine, mais aussi écologique, parce que la vie ne se comporte pas comme ça. Quand vous essayez de réduire un organisme à se copier, en fait, vous clonez, et on n'est pas des clones, en fait. Mais d'où aussi l'avènement technologique et de l'intelligence artificielle, etc. Parce que, en fait, ces choses-là savent très très bien copier, par exemple, et refaire exactement le même. Or, chez nous, et je parle des vies organiques en général, il y a toujours de l'inattendu, il y a toujours de la surprise. Et ça, pour moi, c'est une éthique, en fait, que je veux promouvoir. C'est comment faire de la politique ensemble sans s'appuyer sur des entités et des identités, sans essayer de répéter le même pour être rassuré, et en allant dans une forme d'inconnu, mais qui accroît les forces de renouvellement de la vie. Et c'est en ce sens que je dis que l'hétérosexualité en tant que système organisationnel politique, c'est de la monoculture. Et qu'en fait, être queer ou pratiquer le queer, c'est une forme d'allégeance à la biodiversité. Parce que c'est de la déviance, en fait, d'un modèle qui se veut unique. Where would we find a pose? I just work at computer says no. Are we all ones and zeros? I just work at computer says no. Ooh, do, do, do. You know you wanna put the ooh, computer says no. Ooh, do, do, do. You know you wanna take back control. Take back control. Take back control.
You know you wanna put the drone. You know you wanna put the drone. You know you wanna put the drone. You know you wanna put the. You know you wanna, but computer says no. You know you wanna, but the. Take back control. Robots are the new exotic animal kingdom chaotic. Smoking jacket, hand in pocket. Oh, how I learned to love the rocket. Ooh, do, do. You know you wanna, but the. Ooh, do, do. Computer says no. Ooh, do, do, do. You know you wanna, wanna take back. Control. Ooh, do, do, do. You know you wanna, but the ooh, do, do. Computer says no. Ooh, do, do, do. You know you wanna, wanna take back control. Take back control. Take back control. Take back control. Human kind worked out by rising drone. Take back control. Human kind wiped out by rising drone. Take back control. Fighting, killing, fighting, killing, fighting, killing, fighting, killing by remote control. You know you wanna put the drone. You know you wanna put the drone. You know you wanna put the drone.
C'était l'américaine Jessica Hoop avec le titre Animal Kingdom Chaotic, un extrait de l'album Selective Memory qui est sorti en ce mois de novembre et qui fait partie des nouveautés musicales repérées par le programmateur de la radio rennaise Canal B, Yann Barbotin. Vers des terres continue et on reprend l'entretien avec Myriam Bahafou, chercheuse en philosophie et autrice du livre Héros politiques. Écoféminisme, désir, révolution, rien que ça.
Et c'est là qu'arrive un passage qui, moi, m'a un peu secouée, un passage sur l'ultra-féminité féministe. En gros, pour résumer, vous refusez de distinguer clairement ce qui nous constitue par éducation, on va dire, et ce qu'on choisirait librement, et vous, vous performez le genre féminin en poussant le curseur plus loin que ce qui est jugé acceptable. Ça m'a secouée parce que ça vient bousculer plein d'idées qu'on a sur ce que c'est être féministe, sur ce qu'on fait de ce qui nous constitue une fois qu'on l'a déconstruit.
Oui, alors ça, pareil, je pourrais en parler très longtemps, c'est un énorme sujet. Je crois qu'il y a une littérature qui commence maintenant à être vraiment s'installer dans le champ théorique et littéraire aussi, francophone. Je pense à Itziar Sigar avec Devenir chienne. Je pense à tous les ouvrages femmes en fait, du milieu lesbien, de la littérature lesbienne, qui commencent un petit peu à quand même être assez présents dans cet espace théorique et littéraire. Du coup, moi, ça m'a un peu permis de vider mon sac là-dessus, parce que dans les espaces militants que j'ai un peu mentionnés plus tôt, donc qui sont plutôt des espaces à héritage anarchiste, on pourrait dire. On a vraiment une vision extrêmement suspecte de toute forme d'expression de genre, d'expression d'être qui serait féminine. Pourquoi ? Parce que, et c'est là en fait que ça rejoue des normes patriarcales, parce que ce qui est féminin serait plus artificiel, alors que ce qui est masculin serait plus naturel, serait plus normal. Donc en fait, ce serait plus normal de s'habiller tout en noir de la tête aux pieds et d'être neutre plutôt que d'être femme. Et en fait, moi, ce que je montre, c'est que les pratiques queer désinguent complètement en fait cette logique-là, en montrant que en fait, on peut tout à fait réutiliser des codes, et encore, je suis même pas sûre que les codes extrême femme, pute, salope, etc., soit des codes qui soient si légitimes sous le patriarcat. Moi, ce que je dis en général, c'est que si on me fout dans une pièce, la plupart des mecs hétéros, ils se sentent mal à l'aise, en fait, en la présence d'une personne qui est très, très femme. Encore plus quand son genre dévie, en fait. Donc, encore plus quand il y a quelque chose de à la fois masculin et féminin, encore plus quand il y a des questions de race qui viennent s'ajouter à ça. Enfin, on n'est jamais des femmes tranquilles, quoi. Il y a toujours quelque chose qui dérange. Et du coup, moi, c'est à partir de ce dérangement, en fait, de l'espace public, à partir d'une féminité qui est revendiquée, mais qui n'est jamais propre, en fait, parce qu'aucun genre ne l'est, ni masculin ni féminin, que justement je vais interroger, c'est quoi nos normes militantes et pourquoi elles continuent à avoir une espèce d'hostilité dans le milieu féministe notamment, vis-à-vis en fait de ces figures-là. Et je crois qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise finalement d'assumer et de porter ce corps qui est le mien, précisément parce qu'il montre une contradiction en fait. Et que tous les corps qui aspirent à résoudre la contradiction, pour moi, ça marche pas. Je préfère l'habiter et la montrer plutôt que la résoudre. Et c'est en ça, je crois que pour moi, les expressions femmes, hyper femmes, ultra femmes, qui concernent à la fois les pédales, gays, les transféministes, certaines meufs cis, enfin, ça traverse en fait complètement plein d'identités de genre et d'orientation sexuelle. Je crois qu'à travers ça, il y a l'histoire quand même d'une contestation et justement d'une volonté de revendiquer que on n'est jamais complètement, encore une fois, les individus passifs du patriarcat qui avons subi un lavage de cerveau, mais on n'est jamais non plus à l'endroit du choix absolu. Ça n'existe pas. Et c'est justement dans cette zone grise-là que, pour moi, il y a quelque chose de plus authentique, de plus incertain, de plus erratique à habiter, et que je trouve les femmes font très très bien.
C'est aussi dans ce chapitre-là, le deuxième, qu'il est question donc de l'écosexualité qui vise, je cite, à ressentir du désir à l'idée de faire partie du monde. Et puis la troisième et dernière partie du livre, elle s'intéresse à l'expérience au cœur de l'héropolitique. On y trouve une critique assumée de la psychologie féministe blanche et bourgeoise, et puis de cette idée d'une guérison qui serait pensée comme une restauration plutôt que comme un dialogue constant. Vous faites à ce moment-là plusieurs focus sur des expériences qu'on va qualifier donc de dissolution de l'ego, avec une ouverture nécessaire, en tout cas que vous jugez nécessaire à l'idée de risque, parce qu'en fait c'est là que vous situez le nœud du problème dans la crise écologique qu'on rencontre, ce serait notre incapacité collective à nous laisser pénétrer.
En fait, j'ai pensé le livre en trois parties, bon, parce que je suis formatée par la philosophie dans un premier temps, mais aussi parce que j'avais besoin de faire une première partie qui reconnaisse en fait la façon dont le désir conquête a actuellement bouffé en fait tout espace de désir auquel on peut penser. Ça me paraissait important de reconnaître en fait qu'on s'attaque à un problème qui est extrêmement difficile, dans le sens où le désir conquête, il régit les rapports humains, les rapports amoureux, les rapports économiques. Et de commencer le livre héropolitique par une espèce de joyeuse dissolution queer, ça me paraissait presque un peu trop naïf et innocent. Et donc je voulais quand même reconnaître l'horizon difficile en fait qui nous attend. La deuxième partie, elle vise justement la plus juteuse là, parce qu'en fait pour moi on montre à quel point être queer en fait pour moi c'est être écolo, avec ce truc de se laisser pénétrer, j'y arrive. Et la troisième en fait elle dit bon bah ok là on a fait tout plein d'analyses, c'est super, mais en fait je parle d'un livre qui traite d'héropolitique, donc de désir, de jouissance, de corps, etc. Donc à un moment donné il va falloir faire des propositions concrètes.
Surtout vous dites à un moment que comprendre le mal ne permet pas de résoudre la problématique.
Absolument, en fait c'est en ça que l'intellectualisme est insuffisant, en fait on peut tout à fait analyser, pour le coup en philo, moi je suis très très bien placée pour le savoir. C'est des gens qui analysent finement absolument les problèmes de la construction du fascisme, comment ça fonctionne, etc., mais qui sont incapables de se positionner aujourd'hui clairement sur le génocide palestinien, sur ce qui se passe au Soudan, sur ce qui se passe au Congo. Enfin, du coup, il y a une déconnexion en fait entre d'un côté presque un attrait presque esthétique en fait justement du conflit, de la contradiction du monde, etc., et de l'autre côté une incapacité en fait ou une non-volonté d'entrer dans une forme de praxis, quoi. Et ça, c'est terrible en fait. Et donc c'est pour ça qu'à la troisième partie, elle vise à dire bon, faisons des trucs en fait.
Des trucs que vous avez fait. Ce sont vos propres expériences.
Absolument, et c'est pour ça que ça me paraît important de dire que ces trucs sont situés, sont biaisés, sont des propositions et sont absolument pas, encore une fois, une sortie d'eux. Moi je propose jamais de sortie d'eux, je propose juste d'habiter un peu plus finement, d'être un peu plus lucide ou d'avoir presque des espaces plus multiples en termes de complexité, ce qui est le rôle, encore une fois, de la philosophie pour moi. Et donc dans cette troisième partie, je parle en effet du jeûne, du BDSM, de la danse. Et elle commence par une critique justement de la culture militante qui, à mon sens, ne nous permet pas de poser ces expériences-là comme réellement transformatrices. Et une des raisons pour lesquelles ça n'arrive pas, c'est parce que je crois qu'on bâtit notre culture militante sur un espoir presque démesuré, une obstination à la réassurance, à la validation, à l'identité, au soi. Et à l'opposé, en fait, pour moi, faire de la politique, c'est encore une fois, comme j'ai dit, entrer dans l'inconnu. C'est-à-dire rencontrer quelqu'un de sorte à ce que je ne sache pas ce qu'il va advenir de notre rencontre. Ce qui est terrifiant, hein, dans un sens. Mais ce qui est pour moi tout l'enjeu de faire société. D'où cette métaphore-là, qui n'en est pas vraiment une, qui est de se laisser pénétrer. Donc en fait, j'appelle à une forme d'ouverture pénétrante absolue, presque, comme manière d'habiter le monde. C'est-à-dire, en fait, ce que je dis, c'est que être écolo, c'est ouvrir ses trous. Donc ça, c'est le titre de ce chapitre-là. Ce qui signifie, en fait, que pour être écolo, encore une fois, quand on comprend que ça n'est pas trier ses déchets, rejeter moins de CO2 dans l'air, etc., c'est plutôt la question de me demander quelle capacité j'ai à m'ouvrir et à comprendre à quel point autrui peut me pénétrer. Et c'est ça en fait l'interdépendance. Parce qu'on parle beaucoup de ce terme d'interdépendance, je trouve, dans l'écoféminisme comme ailleurs. Mais la réelle interdépendance, c'est pas de me sentir connectée à autrui, c'est de voir comment autrui a déjà des liens en moi, qui sont pas forcément des liens souhaités par ailleurs. Par exemple, pour les personnes blanches actuellement, ben, pour la plupart, le lien qu'elles ont entre elles, c'est un passé colonial. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, en fait, est-ce qu'on est dans des entités de « on va se sortir d'eux » ou est-ce qu'on est dans une culpabilité ? Ou est-ce qu'on va plutôt se dire « comment ça, ça me pénètre en fait ? Où est-ce que ça a une place en moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? À quel endroit je veux contester ça ?» Et donc ça, c'est reconnaître en fait ces liens et ces connexions. Et les écoféminismes sont hyper forts à avoir théorisé en fait ces liens d'interdépendance humain et non humain. Et pour ça, pour moi, il faut se comprendre comme un individu non pas monolithique, non pas bouché, non pas imperméable, mais ouvert et pénétré. Et c'est en ça que c'est des politiques queer. Parce que pourquoi, en fait, le patriarcat hétérosexuel est à horreur de la pénétration ? Parce qu'en fait, ça signifierait que les vrais hommes ne sont pas donc maîtres d'eux, n'ont pas le contrôle absolu sur leur corps, et en fait auraient la possibilité d'avoir laissé une intrusion, en fait, à l'intérieur d'eux. Et c'est ça, moi, qui m'excite. C'est de comment, en fait, la co-constitution de tous les individus en moi, de mes ancêtres, des micro-organismes qui sont à l'intérieur de moi là tout de suite, qui font le travail de digestion de mes cellules, de mes neurones là, qui sont en train d'activer cette espèce de fougue verbale que je vous livre. En fait, comment tout ça, ça n'est pas moi ? Quelle arrogance de dire que tout ça c'est moi ! Bien sûr que non, c'est pas moi, c'est les bouquins que j'ai lus, c'est l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant, et c'est en ça que c'est de l'éthique du care en fait, ces trucs d'interdépendance. Et c'est en ça pour moi que c'est écologique, parce que plus vous reconnaissez à quel point vous êtes lié aux autres, humains et non humains, plus vous faites monde d'une manière qui soit ouverte et propice à la rencontre, plus en fait pour moi vous êtes antifasciste, d'une certaine manière. Et donc tout ça, c'est un vivre ensemble qui est profondément écologique. Parce qu'il n'y a que, justement, encore une fois, les fascistes pour penser que l'être humain est le nec plus ultra de l'évolution. Ou que l'homme est supérieur biologiquement à la femme. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est vraiment tous ces mythes-là qui viennent se réactiver dans notre climat délétère, en fait, écologiquement, et qui vont réaffirmer un exceptionnalisme humain, qui vont réaffirmer la domination de l'espèce humaine sur le reste du monde. Et du coup, c'est pour ça qu'être écolo, c'est ouvrir ses trous, et c'est pour ça que se laisser pénétrer, c'est un impératif écologique. Les personnes qui ont été pénétrées ont beaucoup plus de choses à dire sur le monde, en général, et pas forcément des choses faciles. Et du coup, je mentionne ça avec, évidemment, tout le sous-texte et l'implicite des personnes qui ont été violées, donc des personnes qui ont subi des agressions sexistes et sexuelles dans leur vie, etc. Et que ça, pour moi, il y a pareil un endroit où, en fait, il est possible d'en faire quelque chose au-delà du statut de victime et d'en faire une sorte de récit presque révolutionnaire d'une pénétration non voulue, mais qui fait de moi un être plus poreux.
Justement, donc avec Aéropolitique, on trouve aussi des éléments de réponse sur la manière de cohabiter avec les oppresseurs, oppresseurs que nous pouvons tous être dans certaines situations, comme, pour vous citer, nos identités sociales sont multiples. La cancel culture pour se défendre contre des figures puissantes, oui, mais ça ne suffit pas. On n'aura pas le temps de détailler là-dessus, mais on peut aller vous lire pour mieux comprendre ce passage-là. Tout au long de l'ouvrage, on trouve des ressources qui sont réunies dans des pages nommées pour écrire cette partie. J'ai lu, relu, lu ou parfois même expérimenté. C'est le cas lorsqu'il est question de l'usage des expériences psychédéliques et de jeunes. Je reviens aux sources écrites. On y croise, histoire de donner quelques noms, Talma Desta, Ovidie, Frédéric Lordon, Paul B. Preciado, Virginie Despentes, Océan, Judith Butler ou encore Douce Dibondo. Est-ce qu'il y a un ou une auteurice parmi ceux-là ou un autre qui aurait nourri l'écriture de cet ouvrage plus que les autres, peut-être parce qu'il vous a secoué?
Oui, en plus c'est un texte et c'est un texte qui est qu'on peut trouver sur internet et qui est gratuit, donc c'est encore plus une référence accessible. Je pense qu'il a été traduit en français, j'imagine. Donc ça s'appelle, je connais que le mot anglais, donc Uses of the Erotic, donc les usages de l'érotique ou de l'érotisme de Audre Lorde. Et c'est un texte de 78, donc ça date, hein. Et c'est drôle, c'est un peu ce que je disais sur un peu l'effacement justement des théories politiques du désir. Moi j'ai l'impression que le désir, on l'a très fort cantonné aux études queer de la sexualité. Donc voilà, on parle de désir en termes d'identité de genre, d'abolition éventuellement du régime cis-hétérosexuel, mais jamais en tant justement que théorie politique globale en fait, universelle presque on pourrait dire. Et Audre Lorde pour moi elle fait ça. Donc dans ce texte de 78, elle raconte comment l'érotisme a été complètement dévoyé de sa forme, notamment sous le capitalisme, via la pornographie. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Audre Lorde est aussi une fervente anti-porno, qui sont des positions que moi, je ne partage pas dans le livre et dans mes convictions. Et donc, dans ce texte, au-delà de la critique porno, qui est anecdotique en vérité dans le texte, elle explique comment l'érotisme est, par exemple, une force politique hyper puissante dans le contexte du féminisme noir et du lesbianisme noir, et comment, en fait, on ne peut pas du tout comprendre les mouvements politiques révolutionnaires afro-descendants sans comprendre la question du désir, et qui est une question décoloniale, en fait. Parce que, et ça, je ne l'ai pas trop dit, puisque ça nous emmènerait encore ailleurs, mais la culture blanche et la suprématie blanche a horreur du désir, en fait. Même si on dirait pas, sous la culture pornographique dans laquelle on est, mais toutes les personnes racisées, en particulier africaines, nord-africaines et noires, afro-descendantes, ont été constamment renvoyées, en fait, à une corporalité trop désirante. On est trop là, on parle trop fort, on fait trop de gestes. Donc, en fait, le désir nous excède presque. Et je crois qu'Audre Lorde, dans ce texte, elle explique que le désir, comme il est constitutif de toute vie, le fait qu'il soit au centre, en fait, de toutes les politiques décoloniales, d'une certaine manière, et là, en particulier, du féminisme noir, c'est un endroit qui, politiquement, a de la valeur, quoi. Et c'est un endroit, donc, elle le rattache au spirituel, par exemple, beaucoup, et qui est, pareil, encore une espèce de tabou politique dont il est dit extrêmement difficile de parler aujourd'hui, mais qui, moi, m'emmène, en tout cas, sur un chemin écoféministe qui est, justement, hyper puissant, parce que ce désir-là, il nous connecte, il est fédérateur, il est révolutionnaire, et il est à un endroit qui n'est pas clair, en fait. Et aussi, il est profondément non humain. Et Audre Lorde, elle en parle dans la dimension spirituelle. Moi, je pourrais tout à fait en parler dans notre connexion aux animaux autres qu'humains, par exemple, ou même aux plantes, ou même à l'eau. Enfin, il y a une espèce de volonté, en tout cas chez moi, de mouvement d'épanouissement écologique qui n'a pas lieu par les voies attendues de l'écologisme, qui sont en fait plutôt blanches et modernes, quoi. Donc ouais, les usages de l'érotique, Audre Lorde, 78.
C'est seulement aujourd'hui que je découvre de plus en plus de femmes identifiées femmes, assez courageuses pour se risquer à partager cette charge électrique, érotique, sans détourner les yeux, sans déformer la nature immensément puissante et créatrice d'un tel échange. Reconnaître la puissance de l'érotisme dans nos existences peut nous donner l'énergie nécessaire pour poursuivre la transformation de notre monde, au lieu de nous satisfaire d'un simple changement de rôle au sein du même vieux drame éculé.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut, il pleut. C'est long dit, il sera tout mouillé. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. Peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise.
C'était Bertrand Belin avec le morceau Berger, un morceau tiré de son 8e et dernier album, What. C'est sorti en octobre sur le label Vagram Music 5-7. Vous le retrouverez, Bertrand Belin, sur scène, notamment le 5 février à Nantes, le 6 à Brest, le 7 à Saint-Malo et un petit peu plus tard au printemps, le 5 avril du côté de Rennes. Vous écoutez Vers des Terres sur Canal B, Radio Boa, Deezer ou Apple Podcast. On passe au reportage de l'émission en lien avec un ouvrage qui est paru l'année dernière, en 2024. Féministe des champs, du retour à la terre, à l'écologie queer de Constance Rimlinger. Cette sociologue, maîtresse de conférences du côté de Lille, fait partie, selon le Mediapolitis, de la poignée de chercheuses françaises qui défrichent le mouvement écoféministe d'hier et d'aujourd'hui. Pour ce livre, elle a mené un travail de recherche durant 6 ans en France et à l'étranger. Et Simone Charrier, que vous allez entendre dans un instant, elle fait partie des personnes qui ont été enquêtées. Elle vit en Centre-Bretagne, dans un lieu-dit nommé Moulincoz, auquel j'ai accédé après avoir amené ma petite voiture tout au bout d'un chemin de terre. À chaque question que je pose à Simone, vous allez l'entendre, la réponse dévie pour raconter toute une vie à toujours suivre ses pieds librement. On a parlé de son parcours agriculturesque, de genre, de son écoféminisme en dialogue avec les humains et les non-humains, et vous pouvez la retrouver en ligne avec son projet associatif de ferme école, la Yourtilière. Enfin, pour habiller le reportage, j'ai utilisé le titre « Adieu, chère Rosette » de Rosette.
Ça, c'est le, lieu central
Oui, c'est un hangar agricole et c'est là où j'ai accueilli un petit marché à la ferme le mardi soir avec une petite restauration, une semaine sur deux maintenant.
Alors, Simone Charrier, je finis dans 3 jours mes 59.
D'origine, je viens de Nord d'Allemagne. Moi, j'entends pas que je parle avec un accent, d'ailleurs. Dans mes jeunes ans, jusqu'à mes 30 ans, je faisais cirque, clown, théâtre. Mais j'ai grandi à la campagne et j'étais toujours entre quelque chose artistique et la culture. J'adorais et j'étais que dans la nature quand j'étais jeune. En arrivant en Bretagne, je suis tombée amoureuse, je pense, ma vraie maison, parce que j'ai quitté l'Allemagne à 18 ans. J'ai vécu en Afrique, au Japon, en Belgique, plein pays. Mais oui, je me sens à la maison, je me sens bretonne. Pour le compte officiel, je suis depuis 1997 chef exploitante, mais moi, je suis paysanne. Chef paysanne, mais ça n'existe pas pour la MSA, mais j'exploite pas. Je rencontrais sur mes voyages différentes façons de cultiver, comme on discutait tout à l'heure déjà, sur la permaculture, biodynamie, plein. Mais j'ai trouvé ma façon, parce que j'aime pas des coins, j'aime tout en rond. On se trouve là dans une hangar agricole qui est en forme d'une yourte, mais qui est bien sûr fixe, avec des murs qui sont avec mes propres bottes de paille et mes propres argiles et le bois, j'ai scié tout moi-même. Tout ce qui est sur le terrain, c'était un terrain abandonné de presque 11 hectares, mais j'ai tout construit moi-même. Je suis glissée dans le maraîchage. Grâce à mon travail théâtre et tout, je sais faire des bons mouvements et comme ça, je sais, avec un autre esprit et des bons mouvements, tu peux cultiver différemment sans te faire mal. Moi, je suis là à la fin de maraîchage. J'ai une jeune qui va continuer un peu à sa façon. Et je fais encore un peu. J'ai gardé un peu de restaurant, mais là, à 60 ans, il faut laisser la place aux jeunes. Et physiquement, j'ai changé. Et j'ai cultivé 400 variétés des légumes, en fait. Je ne prends pas la retraite, justement. Je vais plus parce que ça me fait plaisir de construire et de créer des jardins-forêts, des forêts comestibles, ou juste des petites bacs de culture avec une tunnel qui est amovible. Ou, comme les gens sont, s'ils sont juste 100 mètres carrés, je peux la faire aussi un jardin. Alors, je vais dans ça, dans le conseil et aussi pour femmes, surtout pour femmes. Parce que ici au marché en Centre-Bretagne, j'avais beaucoup, beaucoup de clients au marché qui étaient toutes seules. C'était toujours le mari qui s'occupait, voilà. Et leur aider, ou parfois ils sont des machines à la maison, ils ne savent juste pas comment se servir. Je peux expliquer tout ça, alors je vais vers là.
Garde la Mais formation.
Ici, il y a deux caravanes et une roulotte que je construis moi-même avec comme un peu des caravanes cabanées.
Ah oui, c'est ça. Il y a une caravane à la base, mais autour de laquelle est construite
une cabane. Ouais. Et ça, c'était les logements pour les stagiaires, pour les woofers. Et ça sert toujours encore quand quelqu'un a besoin du calme ou pour quelques mois, quelques semaines.
J'ai toujours juste suivi mes pieds. Comme j'ai dit, mais mes pieds, ils sont dans le ventre, comme mon cerveau aussi, parce que si les contrôleuses EcoCert, elle vient, elle me dit, tu as le plan de culture. Je dis, ouais, comme d'hab, je montre mon ventre parce que je sais où je plante tout et de toute façon, tout est en mélange et en bonne association. Je suis arrivée en Bretagne parce que j'ai eu une pub, comme on a, comme je disais, des réseaux, comme j'avais créé cette école Clown Cirque en plein nord d'Allemagne, à la campagne déjà. Et je viens de la campagne, j'adore la campagne. Et mon rêve, c'était toujours d'être agricultrice parce que mon père n'était pas, je ne pouvais pas hériter des terres ou quelque chose. Bref, je reçois une pub pour une terre lesbienne en Bretagne. Ils avaient trouvé des femmes qui ont donné assez de sous pour eux. Elles pouvaient acheter des terres ici en centre-Bretagne. Et pourquoi la Bretagne? Parce que toute cette fille-là, il y avait une dizaine, ils étaient tous de Berlin, mais une entre elles était bretonne. Et elle donnait des cours de self-defense, de taekwondo. D'ailleurs, elle est rentrée en Allemagne, parce qu'ici, des workshops, des stages, tout ça, ça ne marchait pas. Ni vraiment maintenant, ni à l'époque, qu'entre femmes. Oui, il y a une petite demande des jeunes, mais quand je fais ça, c'est une savade, au moins 40 ans que je mette dedans. Et il faut aussi que je peux vivre. Je ne peux pas faire ça tout gratos. Je fais pendant des années des formations en permaculture pour quasi rien. Je suis expert dans rien. Mais une fois cette sens d'une indépendance et de techniques développées, ça te ouvre plein port. Je fais la plomberie, je fais l'électricité, je fais mécanique. Voilà, c'est parce que je n'ai pas peur. Là, c'était mes parents qui ont toujours eu confiance dans moi et qui m'ont laissé faire.
Ils faisaient quoi, ça, vos parents?
Mon père était médecin, mais pas médecin comme tous les autres. Il prenait énormément le temps juste pour écouter les gens. Et ma mère était kiné. On était en plein campagne et mon père a grandi à la campagne. Ben, c'était avant la guerre et ils sont tout perdus pendant la guerre. Ils ont fait le camp de concentration et tout. Alors, c'est plein d'autres histoires. Voilà.
Donc on est sur un grand terrain là.
Oui, ça c'est en fait c'est un verger en permaculture qui a pas de ligne droite. C'est tout en ovale, il se croise. C'est un mélange entre les fruitiers qu'on peut cultiver en centre-Bretagne. Il y a pois, pommes, cerises où je dois me battre juste avec les oiseaux. J'ai trois différents variété des cerises sauvages. Au début, les oiseaux ne connaissaient pas, alors j'avais des super récoltes, ils sont juste délicieux. En confiture, j'ai les jus. Tu m'avais demandé si je me considère comme éco-féministe. Je ne veux pas me classer comme féministe, mais je dirais je vis tout le thème que le féminisme vit. Mais je suis contre tout séparatisme. J'ai vécu une fois dans une ferme avec Nana et séparatiste. Et j'ai vécu sur ma propre peau le risque que ça prend, que ça peut devenir une sorte sectaire. Et quand on pense, ah oui, nous on est les meilleurs, les autres sont tous cons. Et moi, je suis toujours pour des femmes, mais je ne suis pas du tout contre les hommes. Je comprends ce mouvement de cuir, de gendre et tout. Et moi-même, je suis le nez. J'ai pu grandir comme un garçon. Et j'étais très fâchée quand j'avais mes règles et je voulais plutôt une barbe. Et j'ai pris jusqu'à mes 27 ans à peu près, jusqu'à trouver ma façon d'être une femme. Je ne me considère pas comme femme, comme homme. Je ne veux pas du tout être un homme.
J'étais très philosophique aussi et je cherche être humaine.
Et avec une fluidité.
Et pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai vécu un an en Afrique, c'était là-bas, c'était les hommes qui étaient tout minces, tout longs, et les femmes bien costauds et musclées, parce qu'ils cultivaient tout, ils construisaient les cabanes, ils s'occupaient des enfants, ils faisaient tout. L'homme, il avait une machine à coudre à la limite, où il cousait des trucs sur le marché, mais il n'avait pas à s'occuper de plein de choses. Et tu vois, ça dépend chaque fois. Influence d'histoire, d'un gouvernement, de plein de choses. Déjà, juste la différence entre la France et l'Allemagne. Moi, je ne connaissais pas quand je suis arrivée ici. La première fois quand je me suis promenée dans une ville et j'ai vu des magasins où ce rose et bleu pastel, à l'époque, pour les petites enfants, j'étais sous le choc. Pour moi, c'était un truc, ça fait 100 ans, quoi. Chez nous, tout est en plein couleur. Matriarcal, ça ne veut pas dire que c'est l'inverse du patriarcat, parce que dans des matriarcats, ça n'existe pas une chef et ce n'est pas nécessaire parce que justement, on écoute l'humaine. Si on pourrait vivre plus comme ça, qu'est-ce qui est vraiment notre don, qu'est-ce qu'on aime vraiment et développer n'importe quel sexe on a. Et là, je reviens vers mon truc. Moi, je suis pour l'être humain parce que pourquoi un gars qui aime bien couper les cheveux ou faire la mode va être absolument gay? Ça ne devait pas être un lien forcément comme c'était pendant une certaine période. Tu vois, tu peux être mécanicienne et pas être lesbienne parce que...
Il n'y a pas de lien entre les comportements et la sexualité.
Oui, c'est ça. Comme on dit toujours, oui, dans le foot, tous les nanas, et pour ça, ils sont obligation dans la plupart des pays d'avoir des cheveux longs, hein, qui est vraiment chiant en foot. Mais dès que tu te coupes les cheveux, moi j'avais pendant très longtemps des cheveux super courts, quasi toute ma vie. Et qu'est-ce que ça fait déjà, une coupe de cheveux où on dit juste parce que tu t'es habillée en noir, tu es ici, ou juste parce que tu portes ça, tu es ça, ou tout ce qu'on a dans notre tête qui nous semble, où on réfléchit même pas, qui sont des préjugés dans une façon et qui nous enferment nous-mêmes parfois. Bah, moi, je me suis jamais laissée enfermer. Je suis bien dans mes fringues que j'ai, mais je les porte pas parce que des pantalons de travail, c'est un pantalon d'homme ou de femme, c'est pas ça. Et pour ça, ça devient naturel aussi. Ça, c'est une de tes vraies maraîchères.
Et à l'intérieur, là, il y a...
Là, c'est la vigne, il y a des chayottes. Tu vois, là, j'ai rien sémé. C'est les pourpiers d'hiver qui reviennent chaque année toute seule.
Ce qui est intéressant dans l'épisode que vous évoquez, donc dans cette terre lesbienne où vous êtes allée, et où il y a des choses qui vous ont donc dérangé dans une forme d'entre-soi, c'est un aspect que Constance Rimlinger évoque dans son ouvrage. Vous, on comprend que vous vivez plutôt dans un féminisme, on va dire, en dialogue avec ceux qui peut-être n'en sont pas. Comment est-ce que vous êtes en lien autour de vous pour ne pas être dans un entre-soi?
Moi, je fais partie de plein d'associations agricoles comme la Confédération Paysanne. J'adore la physique et j'adore le quantique. Tout est lié et les anciens, maintenant, c'est déjà les arrière-grands-parents, ils cultivaient bio. C'est dans les années 50 où... moi, j'aime pas dire... pour rien dans la vie que ça c'est la faute, ça c'est bien ou ça c'est mal, ça n'existe pas. Parce que dès qu'on réduit le monde sur noir et blanc, il y a tellement des nuances chaque fois et chaque personne est individuelle et chaque fois, même si on voit des répétitions là-dedans, moi je suis en communication avec toute la nature. À un moment donné, je comptais les oiseaux en printemps, il y avait 35 différentes variétés et pas mal des oiseaux assez rares. J'ai le blaireau, j'ai des chevreuils, j'ai vu une macassin samedi que je croisais. Bien sûr, il se régale chez moi avec toute ma diversité, avec mes vergers, avec si, et il trouve tout. Mais j'ai confiance que si on aurait tout, tout sera en équilibre. Bon, nous, on n'a plus les loups, les machins qui peuvent encore...
Réguler, quoi.
Ouais, une vraie régulation.
Donc vous acceptez Bref, et... les dégâts
Oui, je vis avec. Moi, j'ai pendant cette 22 ans, je n'ai jamais utilisé ni la bouillie bordelaise. Tu as des traitements, entre guillemets, qui sont bio, mais ça reste un insecticide. Alors, si j'arrive à tuer le doryphore qui nouille mes pommes de terre, bah, j'ai tué tous les autres qui m'aident à réguler d'autres choses, je les tue avec. Là, je fais 4 plates-bandes en forme d'une 8. Le 8, c'est l'infini. Et c'est là où je vais continuer toujours de cultiver, même si je me retire un peu de ma recherche, mais je transforme juste mes activités. Et ça, c'est une cabane sur pilotis. Je dois la rénover. C'était la première qui était construite ici sur le terrain. Et tous matériaux sont locaux, sont vraiment d'ici, et où on prouve que des matériaux comme l'argile, la paille, peuvent résister dans le temps. Et, mais dès qu'on veut, ils sont quand même compostables ou on peut le refaire. Oui.
On arrive à la fin de l'émission et il nous reste quelques secondes ou quelques minutes pour une recommandation de ressources, parce que j'aime bien vous donner des conseils de choses à aller lire, écouter, voire vivre pour continuer à explorer ce sujet des luttes écologiques en Bretagne et ailleurs en France, voire même dans le monde. J'ai aujourd'hui choisi l'un des derniers entretiens vidéo du média indépendant et engagé Blast. La journaliste Paloma Moritz a reçu à la fin du mois d'octobre Eric Achiman. Il est journaliste au Nouvel Obs et vient de publier, vous l'avez peut-être croisé en librairie, cet ouvrage, Les vipères ne tombent pas du ciel, c'est paru aux éditions Les liens qui libèrent. Comment l'écologie a-t-elle pu devenir la cible de tant de critiques et de tant de colère? Qu'est-ce que nous avons à en tirer de ces constats? C'est les questions explorées avec en creux un appel à, je cite, « construire une écologie sociale, égalitaire, dont l'horizon serait la réduction des inégalités et l'autonomie des individus ». Extrait.
Quand la voiture émerge au début du XXe siècle, les grandes villes aux États-Unis, mais pas que, c'est pareil en France, pareil en Europe, on circule en tramway. Et quand les constructeurs automobiles, il n'y a pas de demande, très peu. Et donc pour développer la demande, pour qu'elle émerge, pour imposer la voiture, ils décident d'abord d'attaquer en justice les compagnies tramway en disant qu'elles empiètent sur l'espace public. C'est quand même fort de café, hein, de la part des constructeurs automobiles. Ça ne suffit pas, ils finissent par racheter les compagnies tramway et par les démanteler. Donc c'est vraiment très important. Il n'y a rien de naturel à la situation dans laquelle on est. C'est pas une évolution spontanée. C'est pas dans nos gènes. Mmh. Ça a été construit et donc, si c'est construit, ça peut être déconstruit ou reconstruit autrement.
C'était le deuxième épisode de Vers des Terres, j'espère que ça vous a plu. Vos retours sont toujours les bienvenus par mail à l'adresse lucie.louapre@gmail.com. Vers des Terres, qui est donc une émission à écouter chaque mois sur Canal B du côté de Rennes, Radio Boa pour la région Bretagne, mais aussi en podcast en ligne sur Deezer et Apple Podcast. On se retrouve en décembre, le 12 précisément, pour la diffusion rennaise à Canal B. D'ici là, prenez soin de vous, envers et contre tout. Ciao.